Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du cycle de podcast qui présente les 7 membres du Centre de gastronomie historique. Aujourd'hui, nous allons entendre Marie de Huit, qui, au milieu d'une majorité d'historiennes et d'historiens qui composent le centre, est archéologue, et avec qui on va parler justement des apports de l'archéologie pour l'étude de l'alimentation des sociétés anciennes. Marie est diplômée de l'ULB et de la prestigieuse Université d'Oxford. Elle est spécialiste de la Grèce archaïque, ce qui l'a amenée à s'intéresser de très près à la céramique. Et entre céramique et cuisine, il n'y a qu'un pas. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors Marie, quand on pense à la gastronomie historique, on songe évidemment aux livres de recettes, aux livres de diététique, aux livres de savoir-vivre, aux livres d'économie domestique, aux livres d'horticulture, enfin bref, on pense surtout à des livres.
Oui, mais il n'y a certainement pas que par les textes que l'on peut étudier l'alimentation des sociétés anciennes ou récentes d'ailleurs. Et par alimentation, donc je veux également dire tout ce que cela implique au sens large, de la production des denrées, du commerce de ces produits, de la préparation de la nourriture, des évolutions des pratiques alimentaires et des manières de table. Et donc l'archéologue, il étudie les restes matériels du passé. Et pour la période qui m'intéresse en particulier, la Grèce des 7e et 6e siècles avant notre ère, ce qu'on appelle la période archaïque, cette culture matérielle est un apport absolument capital, car les sources écrites à notre disposition ne sont pas abondantes. Il existe par ailleurs d'autres sociétés anciennes qui n'ont pas laissé de sources écrites ou des écrits que l'on ne comprend pas encore suffisamment, comme par exemple chez les Étrusques, et donc où les découvertes archéologiques sont vraiment la source principale pour étudier ces sociétés. Mais l'étude des objets est tout aussi importante pour les sociétés qui nous ont laissé beaucoup d'écrits, et même pour des périodes plus récentes, comme par exemple l'Europe médiévale. Il faut s'imaginer que d'une part, on n'a préservé qu'une partie infime des écrits de l'époque, en particulier pour les périodes les plus reculées comme celle que j'étudie, et que d'autre part, certaines choses qui pouvaient être si anecdotiques pour un contemporain, comme la cuisson des aliments ou la vente de denrées au détail, ont simplement pu n'être jamais mises par écrit.
Ah, oui, c'est vrai que les textes ne disent que ce que leur auteur veut bien dire. L'archéologie peut-elle combler les vides laissés par les textes ?
Oui, c'est ça, on peut dire qu'archéologie et histoire sont complémentaires. En ce qui concerne l'histoire de l'alimentation, l'archéologie peut apporter des éclairages neufs sur énormément de domaines. Par exemple, la production des denrées, avec donc, par exemple l'identification de domaines agricoles ou de zones de pisciculture, de la répartition des exploitations agricoles sur les territoires.
Ah oui, hein, les domaines viticoles.
Et oui, et bien d'autres choses encore. Et il y a aussi les apports de sciences comme la palynologie, donc l'étude des pollens, dans les échantillons prélevés sur le terrain par les archéologues, qui peuvent nous renseigner sur les espèces végétales en présence. Alors, l'archéologie est également très utile pour l'étude du commerce ancien, donc notamment celui de nourriture, avec par exemple les épaves, mais aussi avec l'identification des conteneurs de nourriture ou des restes végétaux eux-mêmes, ou animaux, qui sont étrangers à la zone de découverte. Donc on peut ainsi appréhender énormément d'aspects du commerce des denrées à l'état brut ou en tant que produit transformé. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, car le commerce archaïque, c'est vraiment ma spécialité. Et alors pour la cuisine en tant que telle, l'étude des objets, par exemple les traces de cuisson ou d'abrasion sur les vases et autres ustensiles, peuvent également apporter nombre d'informations sur la transformation, la cuisson, les méthodes de conservation des aliments. On peut également, sur le terrain, identifier les lieux consacrés à la cuisine. Il y a également l'apport de l'archéozoologie, c'est-à-dire l'étude des restes animaux, qui permet par exemple d'identifier les traces de découpe sur les ossements, ou encore l'archéobotanique pour nous permettre d'identifier les restes végétaux quand ceux-ci subsistent dans les zones de préparation ou dans les céramiques. Et enfin, pour terminer un peu ce panorama, qui reste très incomplet, mais qui me permet de dresser une sorte d'éventail des possibles de l'archéologie, l'étude notamment des assemblages céramiques nous permet d'aborder les modes de consommation de la nourriture, les pratiques de table, et aussi toutes ces pratiques sociales, voire rituelles, qui mettent en scène l'alimentation.
Et au final, hein, c'est incroyable le nombre d'informations que peuvent receler jusqu'aux plus petits objets retrouvés lors d'une fouille. C'est à en rendre l'historien jaloux d'ailleurs, hein. Et en ce qui concerne la Grèce ancienne, hein, ton domaine de prédilection, que nous dit l'archéologie sur les habitudes alimentaires ?
Eh bien, quand on pense Grèce, où l'olivier est présent au moins depuis le néolithique, on pense évidemment à l'huile d'olive et à une autre denrée extrêmement importante, qui est le vin, produit au moins dès le 4e ou le 3e millénaire avant notre ère. Vin qui est bien sûr bu, mais aussi utilisé en cuisine, en particulier en bouillie avec les céréales. Et donc, la base de l'alimentation, comme un peu partout dans le monde en fait, présent comme passé, ce sont évidemment ces céréales, et en Grèce, c'est l'orge, le blé ou encore l'épeautre. On consomme les céréales sous de nombreuses formes, dont des gruaux bouillis ou des pains, qui peuvent être agrémentés de miel, de divers fromages ou encore de légumes, légumineuses, racines ou herbes aromatiques, comme les choux, les pousses d'épinards, des fèves, des oignons, de l'ail. Et on consomme aussi des fruits, on retrouve en particulier des dattes et des grenades en fouille.
Ah ok, et au niveau des protéines animales ?
Alors on est évidemment au bord de l'eau hein, dans beaucoup de cités grecques, et donc ceux qui ont les moyens agrémentent tout cela d'une variété de poissons et autres mollusques. Là ce sont les textes qui nous renseignent par exemple sur le fait qu'il existait des poissons absolument hors de prix et d'autres beaucoup plus accessibles, et également en fonction de ces moyens, on mange de la viande, le plus souvent bouillie, donc porc, chèvre, mouton, bœuf, tous ces animaux d'élevage, mais aussi des produits de la chasse. Par contre, la consommation de viande grillée semble particulièrement associée aux cérémonies où les participants recevaient une part de l'animal ou des animaux sacrifiés.
Et donc, nous avons là le repas du grec de l'Antiquité, hein, c'est bien ça ?
En fait, je viens de dresser un panorama très général, mais parce que je voudrais surtout insister sur une chose. Même si en effet ce que je viens d'évoquer, donc céréales, légumes, huile, viande, constitue une forme de constante, la question même de que mangeaient les Grecs de l'Antiquité me pose un peu problème en fait. Alors il y a d'abord la notion temporelle des Grecs de l'Antiquité. Les pratiques agricoles, les circuits commerciaux, les pratiques de table, etc., etc., tout cela évolue bien sûr dans le temps, et ici on parle de plus de 1000 ans d'histoire. L'Antiquité, ce n'est pas un bloc statique et homogène. Et d'un point de vue géographique, c'est la même chose. La question de l'identité grecque est un peu discutable. Alors, il y a bien sûr une langue grecque commune, un panthéon divin relativement similaire, mais par exemple à la période que j'étudie, hein, donc les 7e, 6e siècles, chaque ville est son propre pays, son propre état indépendant, ce qu'on appelle les cités-états. Alors, je ne dis évidemment pas qu'il y avait une différence extrême entre ce que mangeait un Athénien et un Spartiate, mais il faut imaginer tous ces gens qui vivent dans des paysages parfois différents, orientés plus ou moins sur la pêche, ayant plus ou moins accès au commerce extérieur pour varier leur alimentation. Et tout cela sur une aire géographique qui s'étend de l'ouest de la Méditerranée, les Grecs ont colonisé la Sicile et le sud de l'Italie, jusqu'aux côtes de la mer Noire. Donc on a vraiment un espace géographique qui est énorme. Et enfin, même si on s'occupe à une période donnée dans un site donné, dire les Grecs efface un peu la notion d'individu et de la complexité du tissu social. Un esclave, par exemple, n'a évidemment pas accès au même type de nourriture que son maître, mais il y a peut-être aussi des différences à opérer en termes de genre ou même de classe d'âge. On sait par exemple que les femmes n'avaient pas l'autorisation de participer à certains rituels comme le fameux banquet grec, le symposion.
Bon, ben c'est promis, hein, on ne parlera plus jamais des Grecs sans distinction.
Merci Pierre. Donc voilà, la question de l'archéologue qui examine les objets d'une période donnée, dans un contexte donné, c'est plutôt que mangeaient les personnes dans tel groupe social, voire dans tel genre, etc., dans telle cité à telle époque, et en mettant toutes ces données en série, au sein d'un site, d'une région, pour plusieurs périodes, là on peut commencer à envisager l'évolution des pratiques alimentaires sur la longue durée, et pourquoi l'histoire de l'alimentation a pris telle ou telle trajectoire.
Alors bon, ce n'est pas ce qu'on va faire ici, hein, car nous en aurions, à mon avis, pour quelques milliers de podcasts.
Mais oui, non, bien sûr. Je voudrais en fait plutôt revenir En prenant donc toujours ce cas de la Grèce, plus spécifiquement ma période de prédilection, les 7e et 6e siècles avant notre ère, revenir un tout petit peu plus en détail sur cette fameuse étude des objets, le métier de l'archéologue, et en particulier aux nombreux apports de la céramologie. Je crois que beaucoup de gens ne s'imaginent pas toutes les informations que l'on peut tirer de l'étude de la céramique. Alors, tous ceux qui ont déjà visité un musée avec une section antiquité grecque l'auront remarqué, la céramique y occupe un espace particulièrement imposant. Et c'est vrai que le vase décoré est un peu l'objet grec par excellence, et de nombreuses régions de Grèce ont en effet développé des styles de décoration élaborés. On pense donc aux fameuses figures noires et figures rouges, mais il existe beaucoup d'autres styles. Et en Grèce, comme ailleurs, la céramique est une des ressources documentaires parmi les plus importantes pour les archéologues, car c'est un matériel qu'on retrouve de manière très, très, très abondante dans les fouilles. On fait par ailleurs une distinction entre ces vases donc, décorés, donc des services à banquets, les urnes cinéraires, etc., ceux qui sont exposés dans les musées en fait, et les vases sans décor, donc que l'on appelle la céramique commune, des formes qui sont destinées à un usage plus quotidien ou utilitaire. Et la céramique commune est tout aussi riche en informations que les magnifiques vases décorés.
Ah, tu as dit service à banquet, hein, ça nous intéresse ça. Tu peux nous en dire un peu plus hein, sur ces vases décorés ?
Alors oui, par exemple, l'étude de l'iconographie de ces vases a une importance. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, je pense par exemple aux nombreuses représentations des banquets eux-mêmes sur la céramique, en particulier la céramique attique, donc produite à Athènes, car on y retrouve des scènes de table où les protagonistes manipulent ces mêmes vases sur lesquels sont représentées les scènes. Le fameux symposion, le banquet, est un grand sujet d'étude des historiens et des archéologues, car il s'agit vraiment d'une institution sociale de la cité grecque. Pour faire bref, le symposion, c'est un repas et puis une grosse beuverie communautaire, ritualisée. Et au fil des siècles, donc, il y a des services de table très spécifiques qui se sont développés pour cette pratique. Les deux formes emblématiques auxquelles on pense, c'est la coupe, hein, qu'on appelle la kylix, et le cratère. Donc la coupe, le vase à boire, et le cratère, c'est un énorme récipient qui était utilisé pour mélanger le vin, parce qu'en effet, on ne buvait pas du vin pur, mais mélangé à l'eau. Dans ce service, il y a également des formes à verser le vin, enfin des tas d'autres formes, mais aussi des choses beaucoup plus spécifiques, comme par exemple une drôle de forme, un drôle de vase en forme un peu de champignon qu'on appelle psyctère, qui était utilisé pour rafraîchir le vin et que l'on trouve sous cette forme durant une période assez brève en fait, essentiellement la fin du 6e et le début du 5e siècle dans la production athénienne surtout. Il y a par exemple aussi le cas des plats à poisson. Ce sont des plats sur pied avec une petite cupule en leur centre qui sont assez systématiquement décorés de poissons et autres mollusques. Ils sont produits à Athènes dès la fin du 5e siècle, mais deviennent surtout très populaires au 4e siècle, mais chez les Grecs d'Italie du Sud. Tout ça pour dire que, même s'il reste des constantes formelles, donc des vases à boire, à verser, etc., il existe de nombreuses variantes régionales et des modes ou des tendances de formes que l'on voit apparaître, certaines qui disparaissent au fil du temps, au gré de véritables soit changements dans les pratiques, soit aussi des effets de simples phénomènes de mode dont les raisons nous échappent en fait totalement.
Oui, et si je ne me trompe pas, énormément des vases grecs exposés dans les musées n'ont pas été découverts en Grèce.
Exact. Il faut bien s'imaginer que ce que l'archéologue découvre en général, ce sont de tout petits tessons de céramique. Les magnifiques vases entiers exposés dans les musées sont restés intacts parce qu'ils proviennent de contextes non perturbés, et donc bien souvent de tombes, et en particulier de tombes étrusques. Car les étrusques, ce qui correspond donc plus ou moins donc aux habitants de la Toscane actuelle, ces étrusques étaient de très grands clients de cette céramique grecque décorée. Et ça pose la question du transfert non seulement des objets, mais des pratiques de table qui leur sont associées. Et alors comme je l'ai dit, ce service à banquet a été développé pour une pratique, là je vais me contredire, mais entre guillemets très grecque. Et on sait bien que les manières de table sont très codifiées, non seulement au sein d'une ère culturelle, mais aussi au sein de certains groupes sociaux. Et c'est là qu'on voit que notre discipline a pas mal évolué durant ces dernières décennies. Les modernes, en effet, ont eu tendance à attribuer un rôle de civilisateur aux Grecs. Et donc la découverte d'objets grecs en contexte non grec, donc dans ces populations natives d'Italie, des bords de mer Noire, de Grèce du Nord et au-delà, on pense par exemple au cratère de Vix, hein, qui est un cratère donc cette fois en métal, mais qui est aussi une production grecque, toutes ces découvertes d'objets grecs en contexte non grec ont bien souvent été interprétées comme une forme d'acceptation de la supériorité des mœurs grecques, voire d'acculturation de la part de ces populations après une prise de contact avec cette culture prétendument supérieure. Or, une étude approfondie de ces objets importés et en particulier dans leur contexte de découverte permet de relativiser ce type d'interprétation et de décoloniser la discipline elle-même.
Mais donc, cela veut dire que, déjà à la période qui t'intéresse, toutes ces zones si éloignées étaient déjà en contact.
Oui, oui, et ça ne date pas de ma période. La Méditerranée est absolument connectée déjà à l'âge du bronze. Pour faire très rapide, il y a une sorte de période de trouble que l'on considère comme la transition âge du bronze, âge du fer, en Méditerranée et aussi au-delà, vers les 12e et 11e siècles avant notre ère. Et puis, progressivement, les échanges reprennent et on peut dire que à la période que j'étudie, donc l'époque archaïque, mais déjà un peu avant, dès le 8e siècle, on voit une sorte de renouveau, d'explosion des échanges et même l'établissement de colonies et comptoirs commerciaux grecs dans différentes régions du monde, donc notamment en Italie, en mer Noire, en Égypte ou encore sur la côte levantine.
Et comment sait-on tout cela ?
Alors évidemment, il y a de multiples types de sources hein, pour étudier ces phénomènes, mais en termes de céramique, cela se traduit par énormément de circulation de toutes ces productions, que ce soit la céramique décorée comme de la céramique commune. Et évidemment, quand on parle du commerce antique, on pense évidemment aux amphores de transport. Donc les amphores, ce sont des formes qu'on pourrait dire optimisées pour le transport de denrées, particulièrement le transport maritime, du vin évidemment, mais pas seulement, aussi de l'huile, d'autres denrées brutes ou préparées comme des poissons, des saumures ou toutes sortes de fruits. Ce qui est particulièrement intéressant pour tracer ces échanges commerciaux, ce sont les informations fournies par les amphores elles-mêmes. On peut identifier assez précisément le lieu de production, dater ces amphores grâce à leur forme mais aussi aux analyses d'argile ou parfois quand on a de la chance, ces amphores portent des timbres, donc des marques apposées par le producteur ou la cité d'origine.
La nourriture est vraiment au cœur de ces échanges économiques.
Oui, entre les cités grecques, mais aussi entre les cités grecques et le reste du monde méditerranéen. Il y a des quantités astronomiques de céréales qui circulaient d'une région à l'autre. On pense en particulier à la ville d'Athènes, dont le territoire, à partir du 5e siècle, en fait, n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de sa population, hein, après une explosion démographique, et qui doit se reposer sur l'importation de céréales. Mais il y a aussi tout un commerce de denrées alimentaires, parfois sur de très longues distances, qui ne relève pas de la subsistance. Il existait par exemple des vins particulièrement prisés, des grands millésimes, ou des choses qui poussaient ou vivaient dans certaines régions, comme certains poissons du Nil qui étaient très prisés. Et à propos de cela, de mets rares et de gastronomie, il y a une lecture intéressante, car je n'ai évidemment rien contre les textes. Ce sont les Dépnosophistes d'Athénée de Nocratis, donc un texte beaucoup plus tardif à mon propos. Hein. C'est un texte de la fin du 2e, début du 3e siècle de notre ère, mais qui reprend beaucoup d'anecdotes et fait nombre de références et citations à des sources plus anciennes, dont des écrits de l'époque archaïque qui ont aujourd'hui disparu. Et donc ce texte, comme son nom l'indique, hein, c'est un banquet des sages, et les sages discutent notamment de gastronomie, des meilleurs crus, des grandes recettes de telle ou telle région ou de certains même grands chefs.
Eh bien, merci pour cette petite incursion littéraire. Et maintenant, un petit mot sur la préparation des aliments ?
Oui, oui, tout à fait. Mais tu me connais, je vais encore une fois aborder ça en termes de commerce, car c'est ce qui m'intéresse. Hein, ce sont surtout ces réseaux d'échanges dans l'Antiquité. Et donc, en effet, avec la céramique, on ne touche pas qu'aux services de table et aux transports, mais évidemment aussi aux ustensiles qui ont été utiles à la préparation de ces aliments. Ce que je voudrais dire ici, c'est que même à ces périodes plus reculées, comme la période que j'étudie, ces céramiques de cuisine voyagent aussi énormément. Un cas emblématique, c'est celui d'une forme qu'on appelle khitra, une sorte de grosse casserole profonde à fond arrondi, Et celles qui ont été produites à Égine, qui est une île située à quelques kilomètres au sud-ouest d'Athènes, ont été particulièrement populaires à la période archaïque. On les retrouve dans le bassin égéen jusqu'en Crète, mais aussi au-delà, par exemple, sur les côtes nord-africaines.
Je suppose qu'on produisait des casseroles de ce type à peu près partout. Pourquoi celles-là en particulier ont rencontré un tel succès ?
Oui, évidemment, on produisait de la céramique de cuisine un peu partout. Mais le succès de ces quitras éginettes est, on pense, lié à une véritable supériorité technique. Les inclusions de roches volcaniques spécifiques à cette île d'Égine, ainsi que sa forme particulièrement performante, ont permis aux potiers de développer un produit extrêmement résistant à la cuisson. C'est un peu, pour faire un très très mauvais parallèle, là, le creuset de l'époque. Un autre exemple très intéressant, c'est celui des mortiers chypriotes, donc des récipients pour broyer les aliments, qui là aussi illustrent la vivacité des échanges à l'époque archaïque, et pour des produits désirables plutôt que nécessaires. Ces mortiers en céramique, ce sont donc des cuvettes peu profondes, d'un diamètre qui avoisine généralement les 30 cm. La forme apparaît à Chypre à la fin du 8e siècle, et on la retrouve très rapidement, quelques décennies plus tard, diffusée sur toute la côte levantine et en Grèce de l'Est. Ces mortiers étaient vraisemblablement produits en série, de manière assez rapide, et étaient un véritable produit commercial. On a même retrouvé une épave dont la cargaison principale était constituée de ces mortiers, d'un très grand nombre de ces mortiers. Alors là aussi, c'est certainement à leurs propriétés techniques que ces mortiers doivent un tel succès. Des analyses pétrographiques révèlent en effet une argile très épurée et cuite à très haute température, la vitrification rendant l'objet extrêmement résistant. Ce qui est intéressant, c'est que très vite, les Grecs adoptent cet objet et se mettent à en fabriquer. Mais les propriétés physiques des mortiers chypriotes ne seront jamais égalées par les diverses imitations locales, en Grèce et ailleurs, ce qui explique sans doute que les importations d'originaux chypriotes continuent bien après l'intégration de la forme dans les pratiques culinaires hors de Chypre. Et pour te faire plaisir, Pierre, je vais finir avec un petit retour au texte. Les principaux usages de ces mortiers qui ont filtré dans les sources écrites sont relatifs à la préparation de sauces pour agrémenter la nourriture de base. Donc il ne s'agit pas d'objets utilisés pour moudre le grain, mais vraiment pour des préparations culinaires. Les sources évoquent en particulier le mitotos, une sorte de bouillie au fromage et aux herbes qu'on servait avec du poisson. Et un peu plus tard, au IVe siècle, dans son Histoire des plantes, Théophraste rapporte par ailleurs que le meilleur ail pour cette recette était justement de l'ail chypriote.
Eh bien, merci beaucoup Marie pour cet éclairage sur l'apport de l'archéologie en histoire de l'alimentation. Et là maintenant, je crois que plus personne ne peut en douter. Nous aurons bien évidemment l'occasion très prochainement de parler de tout cela devant un vrai public, comme nous l'espérons. Et là, tu pourras à nouveau développer ce thème absolument extraordinaire qui est celui de l'alimentation, l'archéologie et l'histoire. Et nous allons évidemment travailler tous ensemble, historiens, archéologues, pour comprendre au mieux le passé alimentaire de notre civilisation. Merci beaucoup Marie. À très bientôt pour notre prochain podcast.
À bientôt.